Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission en direct des associations Vivre Ensemble, eh bien, nous recevons M. Chave et Émilie, qui sont donc nos invités et qui appartiennent à l'association qui milite en fait pour un sujet très sérieux et très important sur le don d'organes et de tissus humains. Alors bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Donc bonjour. Nous allons essayer de résoudre tous les problèmes que peut poser évidemment le don d'organes, le prélèvement d'organes, parce que effectivement c'est un sujet qui gêne un peu tout le monde, soit pour donner, soit pour recevoir. Et donc, il faut peut-être éclaircir les choses et mettre, tout sur la table pour tranquilliser les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un don d'organes et de tissus ?
Alors, un don d'organes, ça veut dire exactement, c'est que de son vivant, on donnera ses organes lors de son décès. Ça veut dire que de son vivant, on prend une décision de dire, le jour où il m'arrivera quelque chose, je souhaite à ce que mes organes soient prélevés pour pouvoir sauver des vies.
Donc, ce don, c'est l'intéressé qui prend cette décision. En principe, je pense tout seul, effectivement, mais il peut désigner tous ses organes ou certains organes.
Alors, on va dire qu'en général, quelqu'un qui est pour le don d'organes, il ne se pose pas ce genre de questions, mais c'est vrai que des fois, on peut dire « Oh, je souhaiterais que l'on ne prélève pas, par exemple, mes yeux », alors que les yeux, ben, ils ne se prélèvent pas, on ne prélève que la cornée. Mm-hmm. Mais ce choix sera mentionné auprès de la famille, puisque quand on prend de son vivant sa décision de donner ses organes, ce qui est extrêmement important, c'est d'en informer son entourage.
Donc, première des choses, c'est de prendre sa propre décision, bien sûr, de dire quels sont les organes que l'on veut donner, ou donner tous ses organes, mais aussi le faire savoir, et le faire savoir à sa famille.
Son entourage.
Son entourage.
Son entourage,
oui. On peut très bien ne pas avoir de famille. Donc, à son entourage. Et pourquoi pas, disons, pas à un médecin, pourquoi pas à une administration, pourquoi pas à une association. Moi, j'aurais beaucoup plus confiance de dire, à une association, je veux qu'on prélève mon rein, mon foie, mon cœur. Parce que j'aurais peur qu'après, mais dans la famille, ils hésitent, ils reviennent sur ma décision, ou pour une cause quelconque. Hein.
Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que, comme on prend sa décision de son vivant, nous, on conseille toujours de prendre une carte de donneur de n'importe quelle association, du moment qu'elle est gratuite, puisque la carte est toujours gratuite. Le fait de dire à son entourage que nous avons pris nos décisions de notre vivant, en général, vous avez 99 chances sur 100 que les familles respectent le choix du défunt.
Oui.
Il n'y a aucun problème.
De toute façon, il y a la carte. Quelqu'un trouverait la carte parce qu'elle serait inscrite. Si je prends une carte, elle est inscrite. C'est inscrit quelque part, je suppose.
Absolument pas. Il n'y a aucun fichier.
Absolument pas. Il n'y a pas de fichier.
Non, la carte, elle est juste là pour, informer les médecins, le jour où il arrive quelque chose.
Oui, c'est un jour où il arrive un accident.
Voilà, que de votre vivant, vous avez informé votre entourage et que vous étiez pour le don. Ça s'arrête là. Cette carte n'a aucune valeur juridique, rien du tout.
Oui.
Il n'y a pas de fichier, il n'y a rien, c'est tout.
Donc, il y a une chose très importante que vous venez de dire, qui peut peut-être aussi rassurer certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas de fichier. Donc, il ne faut pas se mettre dans la tête une histoire abracadabrante, une espèce de cauchemar, en se disant, j'ai dit que je voulais donner mes organes, donc un jour que je suis sur la table d'opération, le médecin qui peut le savoir, je me dis, tiens, celui-là, il veut donner son cœur, mais tout compte fait, je ne sais pas si je vais le sauver, donc autant prendre son cœur.
Non.
On
y a
est
pas
protégé, puisqu'il n'y a pas de fichier, personne ne peut intervenir dans ce domaine-là.
Il n'y a aucun fichier.
Parce que ça retient certaines personnes. Hein.
Tout à fait.
On va m'achever pour pouvoir se servir.
Tout à fait. Non, il n'y a absolument aucun fichier. Au moins, ce qui est extrêmement important, ça rassure les gens, comme vous dites, mais aussi, on vit une époque où il y a des fichiers de partout. Mais là, il n'y en a pas. Oui. Pour les donneurs, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Oui. Par contre, je pense que pour les receveurs, ça se fait systématiquement.
Ah, obligatoirement, il y a un fichier,
oui.
Là, obligatoirement.
Oui, oui, obligatoirement. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser de recevoir des organes, peut-être.
Ben alors déjà, oui, tout à fait. Mais de toute façon, pour être inscrit dans le registre national, donc des receveurs, entre guillemets, on n'est pas obligé d'y aller. C'est quand même le corps médical plus la personne qui a besoin d'un organe qui décide, entre guillemets, j'accepte de bien vouloir te greffer.
Alors, ces organes, donc, est-ce que tous les organes peuvent être greffés ? D'autres, on n'y arrive pas.
On va dire les organes vitaux, comme le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins.
Ouais.
Pardon ?
Les intestins.
Les intestins, voilà. Mais on va prendre vraiment organes vitaux, hein.
Oui. Donc, cela peut être prélevé et peut être donc greffé.
Tout à fait.
Le problème, c'est que certains vont nous dire que ce n'est pas la peine non plus parce que ça ne marche pas toujours. Alors, il y a les fameux rejets. La presse en parle beaucoup. C'est-à-dire que je crois que le rejet, c'est quand l'organe greffé ne s'adapte pas, disons, à son milieu, à un nouveau milieu, je suppose.
C'est l'organisme qui rejette.
C'est l'organisme qui le rejette, qui rejette. Oui.
Mais je veux dire, ça arrive, attention, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais je veux dire, on est quand même à un taux de réussite de 95%.
95%
de réussite. 95% de réussite. Alors bien sûr, mais le zéro défaut n'existant pas, je veux dire,
oui,
là, ça vaut le coup. Hein.
Dans aucun domaine, il existe zéro de risque. Hein.
Voilà. Mais vous savez, je veux dire une chose, quelqu'un qui est en attente de greffe, qui sait que si elle n'a pas d'organe, elle va mourir... Le jour où on lui propose,
elle tente, elle accepte.
Elle accepte.
C'est certain.
Elle accepte, ce qui est normal. Hein, on tient tous à la vie. Donc, on sait que si on n'est pas greffé, on va mourir. Donc, je veux dire, on y va. Hein. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes greffées qui sont de l'association pensent à la même chose. Hein. Émilie, je crois qu'elle n'a pas eu d'état d'âme. Hein.
Oui. Donc, Émilie qui est à côté de nous est une jeune personne qui a été greffée. Et on lui demandera, évidemment, comment ça s'est passé pour elle, son appréhension, et puis, évidemment, tous les profits qu'elle peut en tirer. Hein. Et je peux vous assurer que, comme ça, je l'ai en face, c'est une charmante personne qui, évidemment, doit vivre pleinement, évidemment, sa vie sans souci.
Hein. Oui, tout à fait.
Ça se voit, rien qu'à votre sourire et votre regard. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que c'est qui empêche les gens de donner leurs organes, à part l'histoire de se dire « on va me tuer plus tôt ». Alors c'est des problèmes de morale, des problèmes de religion. Est-ce que c'est une tradition, on ne donne pas ses organes, on les garde pour soi ? C'est quand même curieux, cette attitude qu'on a.
Vous savez, c'est assez compliqué pour donner une réponse précise. Il y a la religion, il y a les idées. Il y a la peur, comme vous disiez, on va peut-être me tuer parce que pour prendre les organes. Bon, tout ça, il ne faut pas se voiler la face. Dans les hôpitaux, on ne tue pas les gens pour prendre les organes. Les chirurgiens sont là pour sauver la vie des gens.
Bien sûr.
Voilà, premier point. Maintenant, il y a la religion. Alors, c'est vrai que la religion est un facteur de refus. Parce qu'on entend, oui, ma religion m'interdit ci, m'interdit de donner et tout... Et chaque fois qu'on a ce genre de questionnement et que l'on pose la question « Où l'avez-vous vu ? Où l'avez-vous lu ?» La réponse, donc nous on est dans les lycées, la réponse est « On m'a dit ». Et quand on discute après avec des religieux, on a eu l'occasion de le faire à l'hôpital Nord il y a quelques semaines, la religion c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le don d'organes au niveau de la religion c'est extrêmement complexe. Mais comme je dis, ou mes collègues disent aux jeunes, si votre religion vous interdit de donner, si on essaie d'être logique, elle devrait vous interdire de recevoir.
Ben oui, bien sûr.
Et là, c'est vrai que ça crée malaise. Alors qu'il y a des personnes de religion catholique, musulmane, juive et tout ça, ils se font greffer. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de chez vous qui est à l'article de la mort et tout ça... Et qu'on va leur dire, ben, pour sauver votre conjoint, votre enfant et tout, il faut trouver un organe. Les familles n'hésitent pas. Hein. Mmh. Et on ne s'occupe pas de la religion.
Oui, donc c'est un problème tout à fait personnel sur la religion. Et c'est vrai que si on analyse bien l'affaire, on pourrait se demander pourquoi une religion interdirait de donner la vie à une autre personne. Surtout que, effectivement, ça permet de sauver une vie.
Voilà, mais tout à fait. Mmh. Ouais. Mais j'ai lu et entendu par des personnes de religion, dont je tairai la religion parce que je ne veux pas rentrer, puisque nous sommes une association donc apolitique et non religieuse, on s'occupe de tout le monde, qui dit le fait de donner ses organes pour sauver une vie, le fait de sauver cette vie, on sauve une partie de l'humanité.
Ben oui.
Donc aujourd'hui, je sauve une personne. Peut-être que demain, quelqu'un d'autre me sauvera aussi. Mmh. Donc c'est un questionnement qui est assez complexe.
Souvent, les religions sont quand même basées sur un salut. Peut-être pas un salut, évidemment, disons matériel, effectivement, mais à l'idée toujours de salut. Alors, il y a donc le don, mais il y a aussi celui qui attend un organe. Et donc, nous en parlerons après la pause musicale.
Dialogue RCF Aix-en-Provence 101.9.
Dialogue RCF, nous recevons M. Chave et Émilie qui participent, disons, à l'animation, à la vie de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. On a vu que c'était un problème assez délicat qui pose problème pour donner son organe, mais il faut savoir se dire tout simplement que votre organe, on le prend en général lorsque vous êtes en train de mourir ou que vous êtes mort. Donc il doit y avoir évidemment un temps qui joue pour évidemment qu'on puisse le prélèvement. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, ceux qui attendent, qui ont une déficience physique et qui ont besoin d'un cœur, de cornet, des yeux, besoin d'une main, qui ont besoin de poumons. Et justement, nous avons vraiment le bonheur d'avoir dans notre studio Émilie, qui, elle, a reçu deux poumons.
Oui, c'est ça, une greffe bipulmonaire.
Voilà, une greffe pulmonaire. Alors, expliquez-moi un peu votre cheminement entre le moment où il fallait passer à cette intervention et puis le déroulement qui en a suivi.
Donc en fait, je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la mucoviscidose. Mmh. Donc c'est une maladie qui détruit progressivement les poumons. Et malheureusement, actuellement, il n'y a pas de traitement face à cette maladie en France. Donc on peut retarder la dégradation de la maladie grâce à des antibiotiques, par exemple, mais on ne peut pas la stopper. Et donc, à mes 20 ans, je suis arrivée à un stade de vie où les médecins m'ont dit, voilà, ta vie est en danger à court terme. Mmh. Donc, ce qui veut dire que d'ici 2 ou 3 ans, tu vas mourir. Voilà. Donc moi, j'avais 20 ans, donc c'est quand même très difficile de se mettre dans cette position-là. Mais on m'a dit, heureusement, tu es jeune et nous avons une possibilité pour toi. Et donc, c'est la première fois qu'on m'a parlé de don d'organes. Et on m'a demandé si j'étais d'accord pour recevoir un organe d'une personne donc décédée. Mmh. Donc évidemment, j'avais 20 ans, j'avais plein de projets, je voulais vivre. Donc j'ai dit oui, voilà, un grand oui. On a fait une batterie de tests, un scanner, beaucoup de tests pour savoir mes compatibilités.
Voilà, il faut savoir si l'organe qu'on va greffer sur le malade est compatible avec son propre organisme.
Voilà, donc c'est vrai que avant de trouver un futur donneur, on a fait d'abord les tests sur moi, savoir toutes mes caractéristiques, le groupe sanguin, enfin beaucoup de choses. Ma taille aussi, puisque il faut que les poumons soient, entre guillemets, de taille à peu près, d'une taille similaire à la mienne. Il faut quand même que ça rentre dans la cage thoracique.
Oui, c'est vrai, on greffe plus facilement les hommes, parce qu'ils sont un peu plus larges que les...
C'est vrai que moi, je suis quand même toute fine, il fallait que ça rentre dans la cage thoracique. Et donc voilà, donc l'attente a commencé comme ça, à mes 20 ans. 25 décembre, donc pour Noël.
Voilà. Oui, et donc vous avez attendu. Poumons, disons, n'étaient pas, entre guillemets, en réserve.
Ah non.
Non, il fallait attendre.
Il fallait que j'attende qu'un donneur soit compatible avec moi et donc que ce donneur aussi soit décédé. Et donc pendant tout ce temps-là, je continuais mes bilans à l'hôpital, qui était devenu l'hôpital Nord de Marseille, qui était devenu ma deuxième maison. Je faisais à peu près 3 semaines à l'hôpital, 1 semaine chez moi, pour attendre, donc pour continuer les traitements et, comme je vous l'expliquais, pour ralentir la dégradation. Et donc, cette greffe, je l'ai attendue pendant 3 ans.
3 ans ?
3 ans. C'est énorme.
C'est long.
C'est très, très long. C'est très, très long parce que ce n'est pas 3 ans voilà, où on attend tranquillement chez soi. C'est 3 ans de soins intensifs à l'hôpital.
De soins intensifs, et puis on sait que le temps passe.
Et puis on n'est pas sûr d'être greffé. Enfin, du moins, je n'étais pas sûr d'être greffé. En France, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas greffées et qui malheureusement meurent faute de greffons en France. Par le manque de greffons. Donc j'ai eu cette chance, en tout cas.
Difficile, cette situation.
Très difficile pour moi, puis pour mon entourage, pour ma famille, pour mes parents, pour ma sœur, voilà. Donc c'est vrai que, voilà.
Il faut du courage, il faut se tenir des
coups. Dans cette situation-là, je crois que tout le monde a du courage qui sort de je ne sais pas trop où, mais qui
Oui,
qui
c'est arrive. Vrai qu'effectivement, dans une situation très difficile, souvent, on est en état de grâce qui nous permet de tenir, oui. Et alors, un jour ?
Et donc, un jour, j'ai reçu un appel donc de ma médecin, puisque j'étais en permission. Donc j'avais quitté l'hôpital pour le week-end. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai eu cet appel de ma médecin qui m'a dit « Émilie, nous avons un donneur compatible pour toi, voilà, qui est donc en état de mort encéphalique. Et nous avons démarré le prélèvement. Donc, il faut que tu sois à l'hôpital en moins d'une heure. Voilà. » Et j'étais à Nîmes.
On ne doit pas tarder dans ce cas-là. Hein.
Voilà, donc c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le temps de faire ni un sac ni quoi que ce soit. Je suis montée dans une voiture, on a été très vite sur l'autoroute et je suis arrivée, je crois, en 35 minutes à l'hôpital Nord de Marseille. On a fait une batterie de tests, une douche à la bétadine et puis je suis montée au bloc opératoire. Voilà.
Voilà. Et l'opération, donc c'est...
Et l'opération, voilà, était très longue. Hein. C'est une opération qui dure 12 heures, en tout cas, pour ma part.
Ah oui.
Donc, 12 heures sur table. Hein. Donc, il faut quand même, entre guillemets, hein, très régulièrement, il fallait vraiment m'ouvrir en deux, sortir mes deux anciens poumons qui étaient malades et abîmés pour mettre deux nouveaux poumons, tout neufs et en bonne santé.
Voilà. Et en bonne santé.
Voilà, donc pour tout ça, pour tous les raccords avec l'artère, le cœur, voilà, tout ça, mais quand même 12 heures, enfin de 6 à 12 heures.
Oui.
En espérant qu'il n'y ait pas de complications pendant l'opération.
Et donc, il n'y a pas eu de complications.
Dans mon cas, non. Mais puisque mon donneur, donc je ne connais pas du tout mon donneur, mais je sais qu'il a eu un accident de la route. Donc, il était lui-même en hémorragie. Et donc, c'est vrai que vu que mes poumons étaient en hémorragie, en me greffant, je suis devenue moi-même en hémorragie, finalement. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la passation qui s'est établie comme ça. Donc ça s'est très bien passé, mais il y a eu quand même quelques complications, vous imaginez bien. J'étais dans un état d'extrême faiblesse, hein, j'étais en train de mourir, et on me faisait une opération extrêmement compliquée, d'extrême urgence. J'étais extrêmement maigre, hein, je n'avais plus du tout de force, donc il a fallu quand même beaucoup de temps pour me rétablir dans cette opération. Voilà. Je me suis réveillée au bout de 3 semaines, donc ça a été long.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. On vous a mis dans un état second
pour que mon corps puisse s'adapter. Se concentrer vraiment sur cette greffe. On lui a laissé l'opportunité de se concentrer et sur rien d'autre que sur la greffe pour que quand je me réveille, voilà, tout se
Alors,
passe bien.
Deux choses essentielles, vous ne savez pas et vous ne saurez jamais qui est le donneur.
Non, je ne saurai jamais qui est mon donneur, je ne connais pas la famille de mon donneur et la famille de mon donneur ne me connaît pas non plus,
ils savent
pas. Totalement anonyme.
Et ils savent peut-être quand même qu'il y a eu un prélèvement et que les poumons...
Tout à fait. Ils sont effectivement au courant et on leur a demandé leur avis. Donc, ils savent que leur fils ou leur fille a été... Ou leur frère ou mari, je ne sais pas, a été prélevé. Donc, des poumons. Je sais que c'était un homme. Donc, je sais que mon donneur a été prélevé aussi de tous ses autres organes, donc du cœur, des reins, du foie, du pancréas. Mais ils ne savent pas plus que ça.
Okay, voilà. Oui. C'est une chose qui se comprend.
Qui se comprend, voilà. Qui parfois est difficile, mais qui se comprend.
C'est vrai. Et deuxième point essentiel, comment après voit-on la vie ? Parce que quand on vous voit, c'est formidable.
Eh bien, tout simplement, c'est vrai que plein de projets, c'est vrai que c'est une renaissance. Hein, donc tout ce qui a été fait, c'est vrai qu'on profite de la vie à 300%. Et puis voilà, j'ai été greffée à 23 ans, j'ai repris mes études, je suis partie vivre à l'étranger, je suis revenue il y a peu de temps.
Oui,
je suis je fais beaucoup de choses.
Vous voulez une vie tout à fait normale.
Voilà, en tout cas, je vis une vie tout à fait normale. Oui, je peux travailler à temps plein.
Et vous travaillez
Disons que je suis rentrée de l'étranger il y a peu de temps. Et là, je suis en formation pour devenir institutrice des écoles. Mmh. Donc voilà. Mais donc, dès que j'aurai fini cette formation, je pourrai travailler tout à fait normalement à temps plein.
Oui, c'est un problème, c'est un souci. Oui, effectivement. Oui, oui. Et est-ce que je peux vous poser la question ? Est-ce que vous pensez parfois à votre donneur ?
C'est pas parfois, c'est tous les jours.
Tous les jours.
Oui.
C'est tous les jours, oui. Reconnaissance quand même.
Tous les jours, comme voilà, ce n'est pas non plus une obsession, mais je pense tous les jours à mon donneur, comme je pense tous les jours à ma maman ou à ma sœur. Je me dis, ma maman, je me demande, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui ? Mon donneur, je me dis, tiens, j'ai une petite pensée pour lui parce que je vis quand même grâce à lui. Voilà.
C'est bien, c'est bien. Alors, tout, évidemment, ne se passe pas toujours aussi bien comme ça s'est passé pour Émilie, parce que parfois, les malades attendent un donneur et le donneur ne vient pas les greffes ne réussissent pas. Et donc, c'est un échec et pour le donneur et pour le receveur.
Oui, vous savez, quand on sait quand même qu'en 2015, il y avait 22 000 personnes qui étaient en attente de greffe. 22 000 personnes, on n'a pu en greffer que 5 500.
Ah oui.
Donc vous voyez, on a greffé le quart des personnes en attente. Là, je fais des comptes ronds. Hein.
Oui,
c'est vrai, mais il y en a qui décèdent, parce que comme vous a dit Émilie tout à l'heure, elle était pas sûre de pouvoir arriver jusqu'à la greffe. Hein. Mmh. Il y en a, et quand on parle de problèmes hépatiques aussi, c'est encore pire. Là c'est fulgurant, donc il faut greffer dans les quelques jours.
Ah oui, alors là, c'est
très... Donc, je veux dire, toutes les personnes qui sont en attente, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'une greffe pour pouvoir s'en sortir.
Pour vivre, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, les demandes sont énormes par rapport aux propositions.
Tout à fait. Ben, comme je dis, 22 000, moi, quand j'ai commencé à la DOT, on parlait de 10-11 000 personnes. Donc, chaque année, ça augmente.
Et donc, les personnes qui sont en attente sont inscrites dans les hôpitaux, mais de toute la France, je suppose.
Alors, toute personne en attente de greffe est centralisée à l'Agence de la biomédecine, qui est un organisme d'État. Et ce sont eux qui gèrent toutes ces personnes en attente de greffe et qui géreront après aussi les organes qui leur seront mis à disposition après un décès, après une mort cérébrale.
Bon, c'est quand même bien que ce soit un fichier national, parce qu'effectivement, c'est pas quand même le cœur d'un Marseillais qui va servir un Marseillais et les poumons d'un nordiste pour un autre nordiste, effectivement. Donc là, c'est le choix se fait comment ? Par ordre d'attente, par âge,
par la priorité. Alors il y a la priorité parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment
état physique.
Il y a une priorité
vitale.
Il y a après aussi la compatibilité, ce qui est logique. Il y a aussi la corpulence. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais c'est la machine qui fait ça.
Qui choisit
la personne. Donc, après, je veux dire...
Non, toute objectivité, personne n'intervient. Et c'est un mieux.
Tout à fait.
Parce qu'alors, il pourrait y avoir des trafics, des problèmes d'argent, des problèmes d'influence qui interviendraient. Là, on est effectivement
en France,
donc, protégé.
Voilà. En France, impossible, pas de trafic d'organes.
Donc, la chose à faire, c'est qu'effectivement, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités et se dire, du moment que c'est quand je vais mourir qu'on va le prélever, je ne risque pas grand-chose, donc autant faire savoir qu'on peut prélever un organe.
Tout à fait.
Parce que est-ce qu'il existe des situations où on opère quelqu'un esprit pour prélever, disons, un organe et le greffer ailleurs ? Un frère, une sœur, ça arrive.
Ce que vous dites, c'est plus pour le don du vivant.
Voilà.
De son vivant, on donne en général un rein à quelqu'un de sa famille, son entourage ou un ami très proche.
Mais compatible.
Mais là, c'est extrêmement compliqué. Il y a des commissions qui se réunissent, ça passe devant un juge et tout. Ah oui, non, c'est très...
Même la justice intervient.
Tout à fait.
Mais pour raccourcir les délais, alors.
Ça va relativement vite. Ça va relativement vite parce que, pour la bonne raison, mais il faut toujours vérifier quand même que le donneur ne subit pas des pressions de son entourage pour donner son rein. Il y a toujours des garde-fous qui sont là. Ça paraît surprenant à première vue, mais
après, c'est une protection.
C'est une protection aussi bien pour le donneur que pour le receveur.
Donc, si vous voulez donner un organe, faites-le savoir autour de votre entourage et prenez une carte.
Une carte.
Alors, Comment peut-on vous joindre si on veut des informations, si on veut des renseignements, si on a quelque chose à signaler?
Alors, vous pouvez, donc, on peut se rendre sur notre site départemental qui est france-adot13.org. Vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez voir toutes les activités que nous faisons sur le département. Vous pouvez avoir des tas d'enseignements, vous pouvez demander votre carte par Internet, on peut vous l'envoyer par la poste. Vous pouvez aussi venir nous aider lors de manifestations. Enfin, je veux dire, l'association est ouverte à tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc, et on répond toujours aux questions sans aucun problème.
Bien, Émilie, on vous remercie de votre témoignage, et ainsi que M. Chave qui se donne totalement, enfin, ce n'est pas le mot qu'il faut dire.
Je ne sais pas si je donnerai.
Enfin, qui s'active beaucoup pour cette association, et il faut bien que ce soit dans l'esprit de tous les gens qui nous écoutent qu'on peut donner un organe et qu'on ne risque rien de particulier, sinon que de sauver une vie. Et sauver une vie, ce n'est pas un risque.
Tout à fait. Et puis, comme on dit toujours, on a plus de chances de se retrouver du côté du receveur que du côté du donneur.
Au revoir et merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.